Europe 1, il est 8h01.
Ce ponton est une de ces pratiques qui nous montrent que les autorités veulent retrouver le plus vite possible le nombre de touristes que nous avions auparavant.
Le raz-de-marée des paquebots et des compagnies low-cost va-t-il revenir troubler Venise et l'eau de ces canaux que le confinement avait rendu transparente? Reportage de notre envoyé spécial dans une sérénissime qui entend le rester. En France, les flots d'argent public déversés sur l'apprentissage, les start-up, l'aéronautique, un troisième budget rectificatif, une prime pour les personnels de tout le secteur social et médico-social, c'est une information Europe 1, et le mur de la dette, 120% du PIB, notre coup de fil du journal. Il faut rester très vigilant, prévient le Conseil scientifique, la preuve, avec ce nouveau cluster parmi les travailleurs saisonniers.
Qui peut savoir aujourd'hui, sur son exploitation, s'il n'a pas eu un travailleur qui a été en contact avec une de ces personnes qui a été infectée? On
ne
sait pas.
On ne sait pas non plus, en matière militaire, comment se sortir du bourbier au Sahel, nous dira Vincent Hervouet. Et puis, revoilà les générations dorées du foot français, 94-98, Luis Fernandez mène la fronde contre l'actuel président de la Fédé.
Je sais très bien qu'aujourd'hui, le football, c'est le business, c'est le marketing, c'est le marchandising. Mais on a aussi besoin des valeurs, qu'on puisse se penser collectif.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Augustin de Romanet, le PDG du groupe Aéroport de Paris. 8h30 en ligne du Texas, mon invité, le chef de la police de Houston, Art Acevedo. Exclusivité Europe 1, avant de retrouver Nicolas Canteloup, bien sûr, et la revue de presse. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 8h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, François Giffrier.
Pour une fois, ces ruelles et ces ponts ressemblaient aux cartes postales, puisqu'on n'y voyait pas le moindre cornet de glace ni grappe de touristes. Venise avait retrouvé son calme, des poissons dans ses canaux et le rêve d'une vie plus tranquille.
C'est l'étape du jour pour notre reporter Jean-Sébastien Soldaini à travers l'Europe, la cité des doges, où l'on hésite à changer de modèle, mais la pression économique est forte.
Stefano Croce, le président de l'association des guides vénitiens, nous emmène là où les touristes ne vont pas d'habitude. Un petit canal entouré d'habitations, sans restaurant, mais il craint que ce calme ne dure pas, car pendant le confinement, un ponton s'est construit en catimini, de quoi débarquer jusqu'à 1000 touristes par jour.
Ce ponton
est une de ces pratiques qui nous montrent que les autorités veulent retrouver le plus vite possible le nombre de touristes que nous avions auparavant. Et même plus de touristes, avec le risque de faire fuir les Vénitiens.
À l'écouter, le maire veut relancer la machine et il laisse faire. Mais il semble que ce soit les professionnels du tourisme eux-mêmes qui veulent mettre le holà. Joëlle est hôtelier et il veut vite réveiller les consciences.
Pour un petit moment encore, il n'y aura plus de bateaux et moins de vols low-cost. Donc les flux vont être réduits. Et c'est dans cet intervalle de temps que nous devons être capables de nous réinventer.
En attendant, le clocher de la basilique Saint-Marc sonne sur une place déserte, comme un compte à rebours. Venise, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Reportage à retrouver aussi sur europe1.fr et sur nos réseaux sociaux.
Et on ne se privera pas de rappeler, malgré les merveilles vénitiennes, que la première destination touristique au monde est la France, avec parmi ses joyaux les châteaux de Chambord, qui rouvrent aujourd'hui, et de Versailles, demain. Le tourisme, qui fait partie des secteurs soutenus financièrement par l'État, parmi une longue liste, la culture, l'automobile, et ce n'est pas fini. 40 milliards d'euros sont mis sur la table, intégrés à un troisième budget rectificatif. Pour quelle priorité, Emmanuel Dutheil ?
Alors, quatre gros secteurs sont aidés par des mesures spécifiques. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement va présenter son plan d'aide pour les start-up. En début de semaine prochaine, ce sera un grand plan pour soutenir l'aéronautique. Un fonds d'investissement va être mis sur pied pour permettre aux entreprises du secteur de continuer à investir, notamment dans les technologies d'avenir. Des dispositifs de garantie vont aussi être financés pour inciter les compagnies aériennes à ne pas annuler leurs commandes d'avions. Alors, il y a aussi le plan automobile dont on a beaucoup parlé, avec l'énorme chèque pour Renault et la batterie de mesure pour nous inciter à acheter des voitures. Autre énorme plan de soutien, celui pour le secteur du tourisme, des restaurants, de la culture, un plan qui pourrait être encore renforcé dans l'entourage de Bruno Le Maire. On se dit favorable par exemple à des chèques verts pour financer les dépenses d'énergie ou à un renforcement des chèques vacances. Des sommes astronomiques qui viennent encore plus creuser le trou, mais Bercy le promet, pas question d'augmenter les impôts. C'est la croissance qui viendra rembourser nos dettes, dit-on au ministère de l'économie.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Hier, c'est l'apprentissage qui s'est vu promettre 1 milliard d'euros sous forme d'aide à l'embauche, de 5 à 8 000 euros par contrat. On attend 600 millions d'euros pour les start-up.
Avec toutes ces dépenses, on a un chiffre estimé hier par le gouvernement, la dette française atteindrait 120% du PIB en 2020. Autrement dit, ce que la France doit à ses créanciers dépasse largement ce que toute notre économie produit comme valeur en une année.
Bonjour François Eckhall.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du site d'information Fipeco et ancien magistrat de la Cour des comptes. Tout ça peut paraître un peu abstrait, 120% du PIB. C'est historique. Est-ce que c'est dangereux à terme pour la France ?
Alors, c'est toujours risqué d'avoir une dette publique qui augmente beaucoup, parce que plus elle est élevée, plus on prend le risque de voir les créanciers de l'État eux-mêmes s'inquiéter et demander des taux d'intérêt plus élevés et éventuellement un jour ne plus prêter à l'État. Mais dans le cas de la France, c'est un risque à très long terme. Aujourd'hui, heureusement, nous appartenons à la zone euro et tant qu'elle tient le coup, la Banque Centrale Européenne permet de financer les États à des taux d'intérêt très faibles. Donc, dans l'immédiat, nous pourrons emprunter jusqu'à 120% de notre PIB et même plus encore, il n'y a pas de risque immédiat.
Alors, le gouvernement cherche à rassurer, dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Finalement, on va finir par se dire que ces déficits, ce n'est pas la peine de les réduire, jamais.
Ah, si, parce que ce risque que j'évoquais qu'un jour, quand même, les taux d'intérêt remontent et que les créanciers de l'État prennent peur, ce risque, il existe toujours. Si, par exemple, il y a plus d'inflation un jour dans la zone euro, parce que, justement, on a mis beaucoup de liquidités dans l'économie, on a augmenté beaucoup les déficits publics, à ce moment-là, la Banque Centrale Européenne sera obligée de remonter ses taux d'intérêt, et à ce moment-là, on sera dans une situation où il sera beaucoup plus difficile d'emprunter. Et donc, avant de se retrouver dans cette situation, il va falloir quand même réduire les déficits publics.
Merci François Eckhall, fondateur du site d'information sur les finances publiques Fipeco, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct ce matin.
La pression continue de s'alléger sur le système de soins français. Encore 47 patients de moins en réanimation. Pour autant, si on regarde l'historique des grandes pandémies de virus respiratoires, vous en avez 5 sur 10 qui récidivent à l'automne. Voilà l'alerte de Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, dans le journal Le Parisien ce matin.
On recense d'ailleurs une trentaine de malades dans différentes exploitations agricoles du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Des travailleurs étrangers nécessaires à la récolte des abricots, des pêches ou encore des haricots verts. Nathalie Chevance.
Un camping au milieu des champs, c'est là que sont rassemblés 130 travailleurs étrangers, dont une dizaine testés positifs au Covid. Quatorzaine obligatoire pour tous, dans des conditions pas toujours bien acceptées, puisque deux d'entre eux ont voulu s'échapper. Manque de surveillance des services de l'État, c'est ce que dénonce Jean-Philippe Matéki, adjoint au maire de Noves.
Deux travailleurs espagnols qui voulaient rejoindre leur pays. À leur décharge, ils ne sont plus payés. J'imagine qu'on a eu un défaut de pédagogie et qu'on aurait peut-être dû maintenir la présence des médecins ou des psychologues. Ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a aucun moyen alloué pour la surveillance du site. Il peut y avoir d'autres cas, ce qui génère pas mal d'inquiétudes pour les habitants.
Car ces ouvriers travaillent souvent sur plusieurs exploitations, ce qui peut favoriser la propagation du virus. Résultat, quelques 2000 tests sont lancés, ce dont se félicite Patrick Lévesque, président de la FDSEA des Bouches-du-Rhône.
On se sécurise, on va faire les tests. Beaucoup d'employeurs de main-d'œuvre amènent leurs salariés pour se faire détecter. Qui peut savoir aujourd'hui sur son exploitation s'il n'a pas eu un travailleur qui a été en contact avec une de ces personnes qui a été infectés, on ne sait pas.
Et les résultats de tous ces tests seront connus dans les prochains jours. Un épisode dont les agriculteurs se seraient bien passés en pleine période de récolte. Nov, Nathalie Chevance, Europe 1.
Au Brésil, on compte désormais plus de morts du coronavirus qu'en Italie. 34 000 recensés au total et près de 1500 ces dernières 24 heures. Et puis, au Venezuela, cette accusation tombée dans la nuit du ministre des Affaires étrangères du pays, qui laisse entendre que la France héberge l'opposant Juan Guaido, autoproclamé, dans l'ambassade de France à Caracas.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Angela Merkel peut-elle rempiler pour un cinquième mandat? Vous entendrez sa réponse, à tout de suite.
Europe 1, il est 8h12, la suite du journal, François Geffrier, Mathieu Béliard.
L'Allemagne semble s'en être très bien sortie face à l'épidémie de coronavirus, à tel point que des rumeurs montaient sur un nouveau mandat d'Angela Merkel comme chancelière.
Celle-ci a été interrogée sur le sujet à la ZDF, une télévision allemande. Une nouvelle candidature de chancelière? Non. Vraiment pas. Non. Ganz fest, vraiment pas, dit Angela Merkel.
On va rester à l'étranger, avec la coalition anti-Daesh qui est inquiète. Les ministres des Affaires étrangères des pays occidentaux ont tenu une réunion hier. Leur constat ? La menace grandit, les djihadistes essaiment au Sahel et rien n'est réglé au Moyen-Orient. Vincent Hervouet.
Avec les réunions en visioconférence, les ministres font l'économie des salam alek, mais ils perdent aussi l'occasion de conspirer, de négocier. Il ne faut pas trop attendre de la diplomatie numérique, elle est platonique. Le communiqué final de la coalition anti-Daesh, publié hier, est un catalogue de vœux pieux, de principes déclamatoires, de prudences inquiètes. Et pourtant, C'est le groupe restreint de la coalition, les pays qui mettent des moyens sur le terrain, qui connaissent la menace djihadiste. L'explication, c'est le sentiment d'être dans l'impasse. Il y a un an, les djihadistes étaient défaits. Les prisonniers ont été confiés aux Kurdes. Depuis, ils végètent entre deux mutineries. Les autres se sont cachés en Syrie, dans le désert et sur les bords de l'Euphrate, en Irak, sur une large bande au nord. Ils ont léché leurs plaies, reconstitué leur réseau et depuis le Ramadan, eh bien, ils attaquent. En Irak, tous les jours, et parfois des assauts coordonnés contre les miliciens chiites. En Syrie, des embuscades où l'armée syrienne a perdu des centaines d'hommes.
Les ministres parlent d'une menace croissante au Sahel.
Les groupes armés s'y sont multipliés, les trafics, les règlements de compte entre tribus aussi, les États vacillent, les dirigeants locaux jouent sur le sentiment anti-français pour faire oublier leur échec. On dit qu'il faudrait du développement, mais on sait que c'est impossible sans règlement politique. Cette bérésina est largement française, les Américains nous aident, mais les Européens font le minimum.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. Dans le domaine des coalitions, il y a celle qui d'habitude se joue en 4-4-2 sur une pelouse. Dans le foot français, c'est plutôt une conjuration qui semble se monter face au président de la Fédé, Noël Le Graët. Luis Fernandez est à la manœuvre, il a même un début de programme.
Dans ce bateau, il manquait un grand chef, un grand patron. J'ai pris le téléphone, on en a parlé avec ceux de 84 comme ceux de 98, et on a discuté, on a échangé, puis voilà, puis on a envie d'avoir une place, on a envie qu'on puisse nous intégrer, parce que jusqu'à présent, on n'a pas ce sentiment-là. On demande à une équipe de football sur un terrain d'avoir un état d'esprit irréprochable, ça n'a pas été le cas là. La fédération ou la ligue, chacun cherchait à défendre ses intérêts, on doit le faire différemment. Je sais très bien qu'aujourd'hui, le football, c'est le business, c'est le marketing, c'est le merchandising. Oui, on en a besoin de cela, mais on a aussi besoin de, tu sais, des valeurs, qu'on puisse se penser collectif.
Luis Fernandez, tu sais, au micro Europe 1 de Jean-François Pérez.
Merci François Geffrier. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Notez bien ce rendez-vous à 8h30 tout à l'heure, dans un quart d'heure. Je reçois Art Acevedo, le patron de la police de Houston. Après la prise de position de Donald Trump sur le déploiement de l'armée, il avait fait parler de lui. Écoutez, avec ses déclarations sur CNN.
Laissez-moi juste dire au président des États-Unis de la part des chefs de la police de ce pays, s'il vous plaît, si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez votre bouche.
Eh bien cet homme, c'est peut-être un des hommes qui a la plus grosse pression du week-end. Il reçoit énormément d'Américains pour les funérailles de George Floyd mardi. La dépouille de George Floyd sera exposée à la population lundi. Et il est notre invité à 8h30 tout à l'heure. 8h15, nous retrouvons Sonia Mabrouk ce matin avec son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Veuillez attacher votre ceinture, porter votre masque, PNC aux portes, armement des toboggans, ouais. C'est bien ça. Le commandant et son équipage vous souhaitent la bienvenue sur ce vol, vous l'avez compris, les avions bientôt de retour dans le ciel. Quelles consignes, quel changement, quelle vision de l'environnement. Notre invité, Augustin de Romanet, c'est le PDG du groupe Aéroports de Paris.
A tout de suite, il est 8h16.